Hélène Martinelli est une doctorante en littérature comparée et elle nous fait découvrir aujourd'hui les mondes auto-illustrés des auteurs-dessinateurs Josef Wachal, Bruno Schulz et Alfred Kubin. C'est une nouvelle édition de Culture sans frontières tout de suite.
Culture sans frontières.
En gros, le sujet de base, c'est l'auto-illustration en Europe centrale au début du siècle, enfin au début du XXe. Et donc, là, il s'agit de comparer les travaux de Josef Wachal, Bruno Schulz et Alfred Kubin pour essayer de mettre en évidence potentiellement un genre commun ou en tout cas une exigence commune face à la littérature et aux arts plastiques.
Alors, vous êtes doctorante en littérature comparée. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser ce qu'est l'auto-illustration pour les auditeurs qui ne sauraient pas de quoi il s'agit ?
En vrai, ça n'existe pas exactement. Moi, c'est le terme qui m'a convenu le plus à ce sujet, mais ça n'a pas été encore théorisé vraiment. Certains critiques de l'illustration l'utilisent comme ça ponctuellement pour parler des travaux qui anticipent un peu sur la bande dessinée, etc. On peut en parler à propos de Töpffer notamment, mais sinon, ça n'existe pas. Donc moi, ce que j'entends par auto-illustration, c'est la pratique qui consiste à écrire d'une part des histoires, des récits, et à les illustrer soi-même. Et le critère que j'introduis en plus, ce serait que ce soit publié. Évidemment, sinon, à part ça, il y a beaucoup d'auteurs qui ont griffonné dans les marges ou fait des dessins à côté, Victor Hugo.
Vous disiez que les trois auteurs dont vous occupez en particulier, donc c'est Bruno Schulz. On va quand même rappeler que c'est un écrivain, illustrateur, dessinateur polonais. Je dis écrivain aussi parce qu'il a écrit, deux livres pour lesquels il est plus connu en France. Mais hors micro, vous me disiez qu'il était plus connu, en tout cas en Pologne, comme dessinateur et beaucoup moins en tant qu'écrivain. Est-ce que vous pourriez un petit peu retracer le parcours artistique de Bruno Schulz?
Oui, alors en fait c'est facile parce qu'il a un parcours artistique très court. En gros, il a toujours dessiné, il a été prof de dessin, etc. Mais il a écrit que pendant une dizaine d'années, en fait, dans les années 30. Et donc il a eu le temps de faire deux recueils de récits. Je crois que le premier a été publié en 33, le deuxième en 37 ou quelque chose comme ça. Et sa carrière en fait de littérateur est très brève. Donc c'est la raison pour laquelle en Pologne on le connaît plus pour ses dessins, parce que il en a toujours publié et même exposé quelques fois, même s'il n'a pas fait beaucoup d'expositions. Et par contre en France on l'a tout de suite connu pour ses écrits parce que il a été lu rapidement. On l'a introduit via Kafka, via Gombrowicz. Donc du coup, en fait, il a tout de suite été connu pour ça. Mmh. Et d'ailleurs, toujours aujourd'hui, on considère que son écriture est beaucoup plus novatrice et même beaucoup plus avant-gardiste, s'il faut, que ses dessins, qui sont plutôt classiques.
Alors, deuxième artiste dans notre sujet, c'est donc Josef Wachal. Alors, Josef Wachal, c'est un auteur dessinateur, illustrateur assez particulier quand on découvre son œuvre. Il est peut-être moins connu en France, mais il est connu en tout cas en République tchèque. Est-ce que, pareil, une petite courte biographie de cet artiste?
Alors, peut-être pas une biographie en tant que telle, hein, mais disons qu'effectivement...
Une vignette,
voilà, une petite vignette. Ce qui est intéressant avec Wachal, c'est qu'il se considère lui comme graveur, donc ça permet de recouper ces deux activités, parce que c'est avant tout un artiste du livre, ce qui n'est pas forcément le cas pour Kubin et Schulz. Il a fait une formation, lui, de relieur au départ, après quelques petites formations de peintre, mais grosso modo, il est autodidacte, un peu comme les deux autres d'ailleurs, même si ce n'est pas l'autodidactie qui sort non plus de nulle part. Ils ont fait des formations, mais très peu finalement. Et donc Wachal est graveur avant tout. Et lui, c'est vrai qu'en France, on ne le connaît pas, sauf par les récentes traductions. Ce qui est plus intéressant peut-être chez Wachal, c'est que ce rapport à l'auto-illustration est permanent, parce qu'il conçoit ses plaques avec directement le dessin et le texte, et que lui, il se considérait comme graveur précisément parce que ça lui permettait de ne pas trancher entre les deux aussi, je pense. Enfin, j'en sais rien. Il faisait aussi de la peinture, évidemment, mais le gros de son œuvre, ça va être des livres qui ont les deux, et que c'est naturel de concevoir le texte avec l'image et l'image avec le texte.
Alors, troisième artiste, c'est Alfred Koubine. Alors, Alfred Koubine, on en a pas mal parlé ces dernières années sur Radio Prague, puisqu'il a eu une exposition à Paris au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, également à l'abbaye d'Aubrive l'an dernier. Alors, lui est un artiste considéré en général comme autrichien, mais il est né évidemment en Bohème. Et puis bon, c'est l'époque de l'Autriche-Hongrie, donc toutes ses frontières nationales sont assez floues de toutes les façons. En tout cas, il a un nom tchèque. Votre point de vue, voilà, sur son travail à lui.
Alors moi, ce que j'adore chez Koubine, c'est que justement son dessin change totalement quand il se met à écrire. Enfin, c'est pas seulement le seul critère, c'est aussi l'époque où il se marie. Enfin bon, on considère que c'est peut-être pour ça que ses dessins deviennent de moins en moins cauchemardesques et un peu plus raisonnables, on va dire, même si c'est pas tellement un critère. Et donc, ce que j'aime, c'est que donc dans son roman le plus connu, De l'autre côté, il décrit le changement de style du dessinateur. Et donc là, on a vraiment, à mon avis aussi, une communauté d'origine entre le texte et l'image, puisque...
Il décrit sa démarche, c'est ça ?
En fait, il décrit pas sa démarche à lui, il dit pas Monsieur Koubine, mais disons que le personnage dans son roman se décrit comme ayant une mutation totale dans sa forme, enfin dans sa méthode de dessin, et elle est visible de fait dans le changement de style du dessinateur à ce moment-là pour les illustrations de son texte. Donc c'est vraiment intéressant. Ici aussi, on a quelqu'un qui est a priori plutôt dans les arts plastiques, et qui évolue dans le domaine littéraire, mais ça va de pair avec un changement de style. Voilà. Et après, ce qui est intéressant, pour reprendre l'aspect austro-hongrois de la chose, c'est que, justement, a priori, ça pouvait être bizarre d'introduire Schultz, par ailleurs, dans le corpus, mais vu qu'il vient de Galicie orientale et que celle-ci est dans l'Empire austro-hongrois à ce moment-là, ça les met tous les trois dans un contexte post-austro-hongrois.
C'était d'ailleurs l'objet de ma question suivante. Alors justement, les mettre tous les trois ensemble, c'est vrai, quand on regarde, parce qu'on peut pas faire la radio, mais enfin on peut aller regarder dans des livres ou sur internet, quand on regarde leur travail justement de dessinateur, d'illustrateur, il y a quand même des traits communs finalement. Il y a ce côté symboliste, décadent, je sais pas trop comment le qualifier. Ils sont tous les trois nés au tournant du siècle, du 19e, 20e siècle. Il y a quand même des espèces de passerelles entre eux. Est-ce que c'est le reflet d'une atmosphère particulière de l'époque, selon vous ?
Bah, c'est justement un peu la question que je me pose. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses, en fait. Il y a le fait que moi, dans ma discipline, qui est la littérature comparée, on a un peu le droit de mettre ensemble qui on veut, mais c'est pas trop ce que j'ai l'intention de faire. Hein. Donc, il faut sans cesse justifier pourquoi ce regroupement et pourquoi pas, etc. Donc, moi, effectivement, en regardant leurs travaux, ce qui ressort le plus, c'est que au niveau du style, ils sont très différents. C'est-à-dire que c'est pas comparable. Enfin, Vahal, on peut le reconnaître à 300 mètres, et Schultz aussi, et Koubine aussi d'ailleurs. Donc, la question, c'est plutôt de leur rapport à l'avant-garde, etc. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que quoi qu'on puisse pas qualifier leur style à chacun de soit symboliste ou soit décadent ou soit avant-gardiste, ils sont tous les trois à la fois très modernes et tournés vers le passé. C'est-à-dire que tous les trois, ils se réclament plutôt du 19e que du 20e. Et évidemment du courant symboliste, mais avec une tendance vers l'expressionnisme. Alors en fait, du coup, on se retrouve effectivement entre les deux et dans un travail finalement très novateur, bien que imprégné de toute une culture 19e, en fait.
Et c'est pour vous un phénomène d'Europe centrale, ou alors c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs, ou c'est vraiment typiquement si local, Middle Europa, j'allais dire?
C'est aussi une des questions que j'aborde dans ma thèse, même si ça s'est pas encore résolu. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir un peu un regard exhaustif, bon, c'est ce que j'essaye de faire toute personne qui fait une thèse, hein. Mais sur cette pratique-là de l'auto-illustration. Et il se trouve que ce que j'appelle moi auto-illustration, c'est pas le livre d'artiste. Donc c'est début du siècle et c'est souvent avec des matériaux artisanaux. Enfin, on n'est pas dans le livre d'artiste photographique, etc. On est plutôt à mettre la main à la pâte, essayer de faire soi-même la reliure, comme a fait une fois Schultz ponctuellement. Essayer de tout faire soi-même, quoi. C'est quasiment du do-it-yourself, voilà. Et donc tout ça pour dire que ça, c'est quand même localisé comme phénomène, je crois. Mais on ne peut pas dire que ce soit localisé à l'Europe centrale, parce que l'origine de tout ça, on la trouve plutôt en Angleterre, en vrai, avec Blake, enfin, qui était le premier à faire ça tout seul. Et il y a aussi l'influence de Töpffer, donc du point de vue plus grotesque et BD. Mais du coup, j'arrive pas encore à savoir si c'est typiquement centre-européen. Alors par contre, le regard un peu sur le passé et sur la fin 19e, moi je dirais quasiment que oui, mais c'est pas encore élucidé quelque part.
C'est intéressant que vous parliez de l'Angleterre, parce que finalement, c'est vrai que certaines illustrations ou dessins, en tout cas d'Alfred Koubine, peuvent faire penser parfois à des comment dire, à des mises en image de des romans gothiques britanniques, enfin anglais quoi finalement.
Oui, je pense qu'il y a une influence du roman gothique, enfin il y a toute une culture populaire derrière, il y a une influence spécifique je pense du roman gothique anglais. Bon, ça inutile de dire que c'est pas non plus élucidé, c'est, pour moi, il y a clairement une influence anglaise aussi avec le art and craft, etc. Beaucoup de mes auteurs qui sont influencés par Beardsley aussi. Et donc, c'est aussi bien dans les arts plastiques que dans le roman, je pense. Donc, je sais pas, enfin, pour l'instant, c'est pas du tout clair, mais chez Vahal aussi, on retrouve la littérature populaire potentiellement anglaise. Donc voilà, oui, il y a une atmosphère. Mais après, le roman gothique, il est tellement spécifique aussi que c'est délicat de... Ça, en fait, en vrai, le problème du traducteur, il reste générique aussi, quoi, de pouvoir décider si on est dans le populaire ou si on est dans du pseudo-populaire, dans du fantastique, voire gothique, voire merveilleux parfois, ou si on est dans sa parodie, dans un truc finalement très érudit qui fait semblant de, comment dire, de pointer les sous-genres. Enfin, voilà. Donc en fait, bon, ça reste, c'est pas vraiment une réponse que j'ai donnée, mais disons que voilà, je pense que l'Angleterre, de toute façon, est ouais, plus que la France à ce moment-là, vraiment beaucoup plus.
Puisqu'on parle des influences avant, ou en tout cas pendant, on pourrait peut-être parler des influences qu'il y a peut-être eu après. Est-ce que justement c'est leurs illustrations à ces trois auteurs, Schulz, Kubin et Vahal, ont eu une descendance, par exemple je pensais justement, on parlait de la BD un petit peu tout à l'heure, est-ce que justement ils ont inspiré des auteurs de BD actuels?
Alors, les auteurs de BD actuels, je ne les connais pas très bien. Mais c'est sûr que Kubin, on considère comme ayant influencé la bande dessinée en général. Après, des auteurs de BD actuels, je ne sais pas. Je sais que Kubin a influencé Roland Topor aussi, qui est quelqu'un qui a fait des œuvres auto-illustrées aussi. Et donc, je crois que s'il y a une descendance, elle est plutôt ponctuelle, en fait. Je crois pas que ça... Enfin, je suis sûre que ça n'a pas créé de mouvement.
C'est-à-dire que c'est des auteurs qui ont découvert cette œuvre et du coup qui ont été happés finalement par l'univers de ces artistes, en tout cas pour le coup Kubin, mais que ça n'a pas eu une filiation finalement plus large, quoi.
Ouais, moi je pense pas qu'il y ait de filiation. Vraiment, il me semble que c'est comme je disais tout à l'heure, ces auteurs-là, je pense que quand on les aime, c'est de l'ordre de la lubie, quoi, parce qu'ils sont suffisamment excentriques pour que ça ne puisse pas ramener le commun des mortels à forcément s'y intéresser. Et donc, j'ai l'impression que souvent, c'est une filiation ponctuelle. Enfin, donc, pas une filiation, mais plutôt quelqu'un qui s'en réclame ponctuellement dans un travail qui, du coup, s'en ressent. Et quand on voit Roland Topor, qui est le seul exemple que j'ai là, il est clairement influencé par... Enfin, pas par les trois, parce que je crois pas qu'il ait connu Vahal, mais par Kubin, c'est sûr.
Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous intéresser à ces trois auteurs personnellement? Est-ce que c'est aussi le fruit d'une lubie parce qu'ils sont excentriques et que justement ils ont tellement de personnalité finalement qu'on s'y intéresse quand on les découvre?
Alors oui, je pense. Je pense que déjà mon attirance pour la République tchèque et l'Europe centrale plus largement, elle est de l'ordre du caprice en fait, quasiment. Donc voilà. Je pense que oui, je me suis arrêtée sur Vahal à un moment donné où j'ai trouvé que c'était extraordinaire de pouvoir faire ça sans que personne s'en aperçoive quasiment. C'est-à-dire que même en vivant à Prague, j'avais pas été plus tenue au courant j'avais pas rencontré Vahal dans mes lectures, dans les bibliothèques ou dans les librairies. Et donc oui, je pense que je m'y suis attachée parce qu'ils sont excentriques et que j'avais l'impression que ça pouvait me parler, même si je ne suis pas très excentrique. Et l'autre chose aussi, même si ça paraît un peu provocateur de le formuler comme je vais le formuler, quelque part, il y a aussi une recherche de désacralisation, de démystification du génie. Et c'est ça qui serait un peu hérétique de ma part. C'est-à-dire que quand on voit Vahal tout seul, on a l'impression qu'il est le seul à avoir fait des textes illustrés par lui-même. Ou alors on connaît Kubin, on sait qu'il l'a fait aussi, mais on n'a pas l'impression que ce soit un phénomène de mode. Et quand on creuse un peu plus, et moi c'est là où j'en suis de mon travail, on a l'impression que finalement c'est quand même une exigence fin de siècle, début de siècle. Ça va avec l'œuvre d'art totale, avec l'harmonie entre les arts qu'on a vu avec la fin de siècle, la synesthésie, etc. Et donc en fait, j'ai aimé ces auteurs pour leur excentricité et mon travail consiste à démystifier cette unicité.